what?
Diffusés tous les jours, de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Francesco Caonac, avec ce matin Giovanni Federico à la technique, et préparé par Mathilde Unger, Geneviève Méric, François Salmeron, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle, qui vous donne rendez-vous comme tous les jours vers 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins, elle recevra aujourd'hui l'essayiste Nicole Bacharan pour la réédition d'un livre sur les Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche. Suite et milieu ce mercredi d'une semaine sur l'utilitarisme dans les Nouveaux Chemins. Après Mill et Bentham, c'est une troisième figure de l'utilitarisme que nous allons évoquer aujourd'hui, la figure de Peter Singer, dont l'essai sur la libération animale, disponible chez Grasset, est communément tenu pour la Bible du mouvement de libération animale, une Bible ou un catéchisme peut-être, dont on va parler aujourd'hui en compagnie d'Émilie Dardenne, maître de conférence à Rennes, où elle est en duplex avec nous. Émilie Dardenne qui a publié plusieurs articles sur l'éthique animale, l'utilitarisme et la pensée de Singer. Le jour viendra peut-être où le reste de la création animale acquerra ses droits qui n'auraient jamais pu être refusés à ses membres autrement que par la main de la tyrannie. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans recours aux caprices d'un bourreau. On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons également insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort. Et quel autre critère devrait marquer la ligne infranchissable? Est-ce la faculté de raisonner ou peut-être celle de discourir? Mais un cheval ou un chien adulte sont des animaux incomparablement plus rationnels et aussi plus causants qu'un enfant d'un jour ou d'une semaine ou même d'un mois. Mais s'ils ne l'étaient pas, qu'est-ce que cela changerait? La question n'est pas « peuvent-ils raisonner ?» ni « peuvent-ils parler ?» mais « peuvent-ils souffrir ?» Bonjour Émilie Dardenne.
Bonjour Raphaël Antoven.
Bonjour, bienvenue en un sens chez nous sur France Culture, sur les Nouveaux Chemins. C'est de Peter Singer qu'on va parler aujourd'hui et de libération animale. Le texte que je viens de lire n'est pas de Peter Singer, mais il en est en un sens à l'origine et d'ailleurs à plus d'un titre. Je pense notamment à L'enfant d'un mois, on en reparlera tout à l'heure peut-être. C'est un texte de Bentham, qui est donc le père de l'utilitarisme dont on parlait lundi dernier, dans lequel Bentham désigne la capacité à souffrir comme étant la caractéristique déterminante qui donne à un être le droit à l'égalité de considération, et il en vient, à partir de là, à promouvoir finalement les droits des animaux. Est-ce qu'on peut dire que Singer, le propos de Singer sur la libération animale, est tout entier l'héritier d'un tel texte, rappelons d'ailleurs que ce texte est cité justement dans le livre qui porte ce titre, La libération animale.
Alors effectivement, Singer n'est pas le premier utilitariste.
Vous dites Singer?
Oui, Singer.
On dit Singer ou Singer?
On dit Singer.
D'accord.
Il n'est pas le premier utilitariste à parler des intérêts des animaux. Il s'exprime d'ailleurs plus en termes d'intérêts qu'en termes de droits. C'est une distinction importante. Il est effectivement l'héritier de Bentham dans ce domaine. Mais Bentham, la citation que vous avez donnée est importante, mais ça n'est qu'une note de bas de page dans l'introduction au principe de la morale et de la législation. Ce n'est pas du tout une idée centrale
de Bentham.
De l'utilitarisme de Bentham.
Non, mais en revanche, de chez Singer, donc, c'est essentiel. Vous parlez de la distinction entre l'intérêt et le droit. Il y a aussi une distinction évidemment à faire entre Bentham et Singer, c'est-à-dire entre le juriste Bentham et l'éthiciste Singer. Chez Singer, la notion de droit intervient quand même, en particulier quand il parle des gorilles.
Oui, c'est l'exception que j'allais évoquer. Dans le projet Grand Singe, c'est un projet qu'il a élaboré avec la philosophe Paola Cavalieri, et dans lequel il parle de droits fondamentaux pour les gorilles, les orangs-outans et les chimpanzés. Ces droits fondamentaux qu'il réclame pour ces animaux étant le droit à la vie, la protection de l'individu, donc le fait qu'ils ne puissent pas être privés de leur liberté, et le droit de ne pas être torturés. Mais en dehors du projet Grand Singe, Singer ne s'exprime pas en termes de droits pour les animaux. Il n'est pas un partisan des droits des animaux, à l'inverse d'autres philosophes d'éthique animale comme Tom Reagan, qui lui s'exprime en termes de droits.
Beaucoup plus radical d'ailleurs, hein, d'une certaine manière.
Oui.
Alors justement, on va entrer dans le détail, la subtilité de la façon dont Singer, sans parler de droit, défend, si j'ose dire, les droits des animaux, sans employer ce vocabulaire. Pour Bentham, le fondement, on en a parlé déjà beaucoup cette semaine, le fondement de l'utilitarisme réside dans l'antagonisme entre le plaisir et la peine, ce qui signifie que tous les êtres vivants capables de souffrir sont pris en compte dans le calcul utilitariste. Cet argument, dont vous rappelez hein, que c'est une simple note chez Bentham, devient la base du mouvement de libération animale, dont on peut dire qu'il repose sur la sensibilité, la sphère morale, si sphère morale il y a, n'est ni limitée par la raison ni par la rationalité, mais par la sensibilité. C'est l'enjeu du propos de Singer.
Tout à fait. Dans son ouvrage donc, qui s'intitule « La libération animale », il développe trois grandes idées. D'abord, le principe d'égale considération des intérêts, qui est le véritable fondement de l'égalité pour lui, à la fois au sein de notre espèce et pour tous les êtres sensibles. Et pour lui, l'existence de la souffrance animale, dont on ne peut plus douter, cette existence de la souffrance dit qu'il est impossible de justifier moralement le fait de considérer la douleur que ressentent les animaux comme moins importante que la même quantité de douleur ressentie par les êtres humains. Donc parce qu'ils souffrent, les animaux ont des intérêts. Le principe d'égalité nécessite qu'ils comptent comme tous les êtres sensibles. Par contre, évidemment, si un être n'est pas capable de ressentir plaisir et douleur, il n'a aucun intérêt.
Se pose néanmoins chez Singer, hein. Singer pose néanmoins en façon assez cartésienne la question de savoir comment affirmer que les animaux non humains, comme il dit, ressentent la douleur. Il dit comment pouvons-nous le savoir ? Comment savons-nous si quelqu'un, quel qu'il soit, humain ou non humain, ressent la douleur ? Nous savons que nous-mêmes pouvons ressentir la douleur, nous le savons par l'expérience directe qu'on a quand quelqu'un applique une cigarette allumée sur le dos de notre main, mais comment savons-nous que qui que ce soit d'autre ressent la douleur ? Ce qui est applicable effectivement à notre prochain humain, c'est-à-dire on ne sait pas s'il ressent la douleur ou s'il feint la douleur qu'il exprime, eh bien on peut l'appliquer également aux animaux dont les contorsions, les grimaces, les gémissements, les glapissements et autres formes de cris, les tentatives pour éviter la source de la douleur ne sont que des signes, que des présomptions, mais en aucun cas ne nous permettent d'affirmer, contre Descartes qui voyait dans les animaux des machines, que les animaux ressentent effectivement la douleur.
Tout simplement, Peter Singer estime que le fait que les animaux possèdent un système nerveux comme nous justifie le fait que l'idée qu'ils ressentent la douleur, qu'ils sont sensibles et que donc on ne peut pas justifier de les exclure de notre monde moral pour cette raison. La sensibilité leur confère les mêmes intérêts à ne pas souffrir que les humains. Donc il y a là une révolution éthique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'un être humain égale un animal. Il ne met pas sur un pied d'égalité l'ensemble des vivants.
Ça ne veut pas non plus dire, d'ailleurs, qu'un être humain soit supérieur à un animal. L'inégalité entre l'être humain et l'animal peut, chez Singer, se faire au profit de l'animal, Émilie Dardenne.
Oui, tout à fait. Ce que veut dire Singer, c'est qu'il faut se demander quelles sont les capacités chez un être vivant qui sont moralement significatives. Donc pour lui, c'est, comme pour Bentham, la capacité de ressentir plaisir et douleur. D'ailleurs, le premier chapitre de son ouvrage « La libération animale » débute sur cette idée. Il reconnaît tout à fait les différences qui existent entre les êtres humains et les animaux, et même sur le plan de la douleur. Il dit qu'il partage la douleur, mais il ne la partage pas de façon strictement équivalente. L'être humain possède des capacités mentales dont l'animal est dépourvu, par exemple une mémoire plus détaillée, donc ça pourra faire pencher la balance dans certains cas du côté humain, ça pourra la faire pencher du côté animal dans d'autres cas. Par exemple, on la fera pencher du côté humain dans la mesure où les humains sont capables de se représenter la souffrance et de l'anticiper, ce dont ne sont pas capables les animaux, alors que dans d'autres cas, on fera pencher la balance de l'autre côté, puisque les animaux ne sont pas capables de connaître leur sort, le sort qui leur est réservé quand on les met dans un camion, par exemple. Ils ne savent pas si on les emmène à l'abattoir ou si on les enferme ou si on les transporte simplement dans un autre lieu.
Émilie Dardenne, allez-y.
Oui, c'est simplement pour dire que ces différences ont bien sûr un impact sur le calcul des intérêts de chacun et que donc Singer ne dit pas un animal égale un être humain.
Juste un petit paradoxe. L'éthique, si éthique il y a, si on peut parler d'éthique, il me semble que c'est le cas, repose donc sur la reconnaissance du fait de la douleur. Et dans le même temps, Singer est un utilitariste. C'est donc quelqu'un qui évacue, à la suite de Bentham d'ailleurs, le sentiment d'évidence. Hein. Bentham, on l'a vu lundi, congédie l'évidence au sens cartésien du terme comme guide de la vérité. Il évacue ce qui relève d'une évidence intuitive. Comment peut-il faire reposer son système sur la reconnaissance d'une douleur que l'évacuation de toute évidence intuitive lui interdit, le rend inapte à ressentir? Comment peut-on partager la douleur d'un humain ou d'un animal sans pour autant ressentir intuitivement la douleur qui nous est épargnée, Émilie Dardenne?
Alors d'abord, Singer n'évacue pas la question des choses intuitives.
Mais en même temps, il dit qu'on ne peut pas démontrer la douleur, enfin, ou plus exactement qu'on peut, la présumer, mais on ne peut pas l'éprouver.
Non, mais on ne peut pas non plus éprouver la douleur d'un être humain et pour autant, on ne fait pas souffrir les autres êtres humains. Donc, on doit se comporter de la même manière envers les animaux.
Mais c'est ça qui est contestable. On peut éprouver la douleur qui nous est épargnée. On peut éprouver une douleur qu'on ne ressent pas. Si vous voyez quelqu'un mendier dans la rue, si vous voyez quelqu'un objectivement souffrir, si vous lisez dans l'œil d'un homme une détresse absolue, vous êtes vous-même affecté. Alors, bien sûr, c'est votre douleur, mais cette douleur-là, et certains parleraient d'empathie, par exemple, Serge Tisseron sort un livre là-dessus, là, en ce moment, la question de l'empathie. Qu'est-ce qu'un utilitariste trouve à dire à l'empathie, qui pourtant est le meilleur chemin vers la reconnaissance de la douleur d'un autre?
Mais Singer ne rejette pas l'empathie.
Non.
Il fait appel d'ailleurs à des concepts non utilitaristes pour étayer ses idées. Il fait appel à au concept d'autonomie. Il fait appel au concept de don, pas tellement dans le cadre de son éthique animale, mais dans le cadre de son éthique du partage. Donc non, il ne rejette pas du tout le concept d'empathie. Ce qui me semble important de souligner ici, c'est que Singer a adopté l'utilitarisme à deux niveaux de Hare.
Il faut dire quelques mots sur Hare, justement, dont vous nous parlez. Allez-y.
Donc, Richard Hare était le professeur de Singer à Oxford. C'est une autre grande figure de l'utilitarisme. Donc, Hare nous dit qu'il y a deux niveaux de réflexion. Il y a un niveau de tous les jours où le calcul d'utilité n'intervient pas. Mm-hmm. Donc, c'est une proposition importante, les règles de morale intuitive jouent normalement à ce niveau. C'est seulement au second niveau, qu'il appelle le niveau de l'archange, que le calcul utilitariste intervient, c'est-à-dire dans le cadre où il faut prendre des décisions extraordinaires et donc il faut s'élever à un niveau critique supérieur.
C'est intéressant parce qu'en général, on envisage l'inverse. On se dit, ben là, dans la vie quotidienne, il faut être utilitariste parce qu'il faut calculer, compter, en somme survivre. Mm-hmm. Et en fait, au fond, il y a le « moi profond », je mets l'expression entre guillemets, qui, lui, ressent ce qu'on feint de ne pas éprouver dans la vie quotidienne parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on n'y pense pas. Là, c'est l'inverse.
En tout cas, cette version permet de réconcilier l'utilitarisme avec une forme de kantisme et de répondre à des objections essentielles qui ont été formulées à l'encontre de l'utilitarisme, et notamment son caractère trop exigeant. Comment mettre en pratique au quotidien le calcul, systématiquement, le calcul des intérêts, le fait de les additionner, de les considérer individuellement,
donc,
etc.
En inventant le niveau de l'archange, il répond au kantien, finalement.
C'est une manière de rendre l'utilitarisme plus souple et de répondre à l'objection, effectivement, du caractère trop exigeant de l'utilitarisme. Ça permet également de répondre à une autre critique que vous avez d'ailleurs évoquée les jours passés, qui est celle du sacrifice. Ça permet également de contourner en partie cet obstacle-là, qui est un obstacle majeur dans l'utilitarisme.
Alors venons-en, et c'est une question sur laquelle d'ailleurs on revient demain. C'est une émission que nous avons enregistrée hier avec Catherine Audard qui reprend les arguments d'une critique, allez, kantienne disons, de l'utilitarisme. Ça, on en parlera plus précisément demain. Restons sur cette question animale et donnons à entendre un extrait de La Libération animale. C'est la description d'un dispositif de torture dont parle Singer, dont d'ailleurs, avant d'entendre cet extrait, je voudrais juste lire les toutes premières lignes de la préface de son livre à l'édition de 1975. Voici ce qu'il dit. « Ce livre, écrit Singer, porte sur la tyrannie que les êtres humains exercent sur les autres animaux. Cette tyrannie, on entend ici le vocabulaire de Bentham d'ailleurs, hein, tyrannie, cette tyrannie a causé et continue à causer aujourd'hui une quantité de douleur et de souffrance qui n'a de comparable que celle que causa la tyrannie que les humains blancs exercèrent des siècles durant sur les humains noirs. » Bentham, là encore. Le combat contre cette tyrannie est une cause aussi importante que n'importe lequel des combats moraux ou sociaux menés au cours de ces dernières années.
En 1953, Solomon, Kamin et Wine, expérimentateurs à l'université de Harvard, ont placé 40 chiens dans un appareil baptisé « boîte à navette », qui comprend deux compartiments séparés par une barrière. Au début, la barrière était placée à la hauteur du dos du chien. On lui administrait alors des centaines de chocs électriques intenses aux pattes à travers une grille sur le sol. Tout d'abord, le chien pouvait éviter les chocs s'il apprenait à sauter la barrière pour aller dans l'autre compartiment. Dans une tentative pour décourager un des chiens de sauter, les expérimentateurs le forcèrent à sauter 100 fois dans l'autre compartiment sur un sol lui aussi muni d'une grille qui distribuait un choc électrique aux pattes. Il rapporte qu'au moment de sauter, le chien émettait un jappement aigu d'anticipation qui se transformait en glapissement lorsqu'il atterrissait sur le grillage électrifié. Ils bloquèrent ensuite le passage entre les compartiments par une vitre et mirent le chien à nouveau à l'épreuve. Celui-ci s'élançait et s'écrasait la tête contre la vitre. Au début, les chiens manifestèrent des symptômes comme la défécation, la miction, les glapissements et hurlements, les tremblements, les attaques contre l'appareil, et ainsi de suite. Mais après 10 ou 12 jours d'essai, les chiens qui ne pouvaient échapper au choc cessèrent de résister. Les expérimentateurs rapportent que cela les avait impressionnés. Et en conclure que l'association d'une vitre et de chocs électriques aux pattes était très efficace pour amener les chiens à cesser de sauter. I was in the kitchen, shameless as the dog was outside.
Émilie Dardenne est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Aujourd'hui, dans une semaine sur l'utilitarisme, c'est de Peter Singer et de la libération animale que nous parlons aujourd'hui. Émilie Dardenne, Peter Singer est un utilitariste, il ne fait pas de morale. Et pourtant, la façon dont il décrit froidement le dispositif d'expérimentation sur les chiens, cet ignoble dispositif mis en place donc sans le moindre scrupule moral pour le coup, donne clairement le sentiment que cet homme-là fait de la morale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Oui, il fait de la morale.
Quoi qu'il s'en défende.
Je ne pense pas qu'ils s'en défendent. Vous faites allusion certainement à une question que vous posiez également hier. Est-ce qu'on fonde le normatif dans le descriptif, la norme dans le fait.
Précisément, on est en plein dedans, dans cette question. Il décrit quelque chose et en le décrivant, il donne le sentiment d'établir une norme.
Alors, c'est une question qu'il a abordée au tout début de sa carrière de philosophe. Et c'est une question qu'il évacue en fait assez rapidement dans un article qui s'intitule « Triviality of the debate over the is ought », c'est-à-dire la trivialité du débat à propos de ce qui est et ce qui doit être ou ce qui devrait être. Singer explique que la question de l'opposition entre ce qui est et ce qui devrait être est centrale dans la philosophie contemporaine, mais que finalement, peut-être que les philosophes devraient accepter que le consensus n'est pas possible sur cette question et que la réponse dépend de la définition de la moralité que chacun adopte. Pour lui, ce qui est important, ce n'est pas tellement de se poser la question de ce qui est, ce qui devrait être, mais de s'attaquer véritablement aux problèmes concrets. Ce qui compte à ses yeux, ce n'est pas le lien entre les faits et les jugements moraux, c'est le lien entre les faits et les raisons d'agir.
Oui, mais par exemple, il dit, premier chapitre de La Libération animale, « Tous les animaux sont égaux, pardon, ou pourquoi le principe éthique sur lequel repose l'égalité humaine exige, c'est pourquoi, pardon, le principe éthique sur lequel repose l'égalité humaine exige que nous étendions l'égalité de considération des intérêts également aux animaux. Il y a une position de principe ici. Et il exige que nous étendions l'égalité de considération des intérêts également aux animaux. Il continue, il dit, si l'exigence d'égalité se fondait sur l'égalité de fait de tous les êtres humains, il faudrait cesser d'exiger l'égalité. Il y a quand même une ambition normative dans sa démarche.
Oui, il y a une ambition, normative, oui, je crois.
Il continue, il dit, les intérêts se valent, un intérêt est un intérêt, quel que soit l'être dont il est l'intérêt. Et pour Singer, les intérêts des Noirs valent ceux des Blancs, ceux des femmes valent ceux des hommes, ceux des animaux non humains valent ceux des animaux humains. Alors, on peut d'un point de vue trouver ça extrêmement sympathique, effectivement, et adhérer pleinement à l'idée que les intérêts des Noirs valent ceux des Blancs, et réciproquement d'ailleurs, que ceux des femmes valent ceux des hommes, et réciproquement. Que ceux des animaux non humains valent ceux des animaux humains, est-ce que le parallèle entre les Noirs et les Blancs, les femmes et les hommes, et les animaux non humains et les animaux humains, étant entendu que Singer maintient une différence entre l'animal et l'homme, n'est pas en lui-même réversible et justement problématique pour ce qu'il dit des Noirs et pour ce qu'il dit des femmes?
Il ne dit pas que les animaux et les êtres humains sont égaux. Il dit qu'il faut considérer
Leurs intérêts se valent.
Voilà, leurs intérêts se valent. Mais qu'il y a des différences de traitement importantes entre les êtres humains et les animaux. Par exemple, ce qui est important, je pense, dans la notion d'intérêt, c'est qu'elle repose sur la question de la sensibilité et sur la question de la souffrance. Il y a un point important à souligner, c'est que Singer n'accorde pas la même valeur à toutes les vies humaines ou animales. C'est à ses yeux la question de la souffrance qui est pressante et pas la question de savoir si on a le droit de leur ôter la vie ou non. Donc le débat sur le fait d'ôter la vie des animaux est secondaire chez Singer.
L'essentiel est qu'on le fasse sans douleur.
L'essentiel est qu'on le fasse sans douleur, et l'essentiel surtout, c'est de déterminer quelle capacité l'être auquel on a affaire et de quelle capacité il est doté. C'est-à-dire que si la capacité à souffrir suffit à placer un animal dans notre monde moral, cette capacité à souffrir ne suffit pas, en revanche, à considérer qu'il faudra éviter de lui ôter la vie.
Alors justement, est-ce que de ce point de vue, petite parenthèse, que dit Singer, savez-vous ce qu'il pense de la peine de mort par injection létale, qui est censée dissiper la souffrance avant de tuer sa victime?
Non, je ne sais pas.
Mais en toute rigueur, on peut considérer qu'il y est favorable.
Je crois qu'il est opposé à la peine de mort, mais je n'en suis pas certaine.
Bon, mais laissons de côté les arguments de Singer lui-même. Si on est cohérent, fidèle à la pensée de Singer, quelle raison a-t-on de s'opposer à la peine de mort par injection létale, c'est-à-dire une peine de mort qui prend soin d'abord de dissiper la douleur, en principe?
Si on a une raison de s'opposer à la peine de mort quand on est Peter Singer, puisque la différence entre... je parlais tout à l'heure de la question de la souffrance et de la question de l'abattage. Mmh. Si les animaux n'ont pas nécessairement un intérêt à continuer à vivre, les humains, en revanche, ont cet intérêt. Donc c'est une différence fondamentale entre les deux. Donc Singer s'opposerait à la peine de mort.
Donc c'est au nom de l'intérêt qu'un humain peut avoir à vivre qu'il s'oppose à la peine de mort.
C'est au nom de sa capacité à se projeter dans le futur, à avoir des désirs et des préférences qu'il voudrait réaliser dans le futur, qu'il faut s'opposer au fait de lui ôter la vie.
Mmh. Allons dans le détail là encore de la pensée de Singer qui est complexe. Hein. Il dit ceci, vous l'avez dit, hein, l'égalité de considération donc entre l'homme et l'animal n'est pas l'égalité des vies. La préoccupation pour le bien-être des enfants, dit Singer, qui grandissent aux États-Unis, peut exiger que nous leur apprenions à lire. La préoccupation pour le bien-être des cochons, toujours eux, peut ne rien impliquer d'autre que de les laisser en compagnie d'autres cochons dans un endroit où il y a une nourriture suffisante et de l'espace pour courir librement. Donc ne faisons pas habiter les cochons dans des appartements avec de la moquette, ils n'y trouveraient pas leur intérêt, ni nous le nôtre. Donc le traitement est différent, ce qui n'entame pas l'égalité de valeur, en un sens. Mais Singer prolonge, et c'est ça qui pose véritablement problème, il évoque des cas particuliers, il dit, en général, s'il nous faut choisir entre la vie d'un être humain et celle d'un autre animal, on doit choisir celle de l'humain. Mais il peut y avoir, dit Singer, des cas particuliers où l'inverse sera vrai, quand l'être humain en question ne possède pas les capacités d'un humain normal, et il continue en disant « Tuer un chimpanzé est pire que tuer un être humain qui, du fait d'un handicap mental congénital, n'est pas et ne sera jamais une personne. » Qu'est-ce qui distingue cet homme d'un nazi, Émilie Dardenne?
Alors, c'est l'argument des cas marginaux. Singer ne dit pas qu'un chimpanzé a plus de droit à vivre ou de droit à ne pas souffrir qu'un être humain qu'il appelle marginal. Il dit que les deux doivent être sur le même pied d'égalité. C'est un argument central et récurrent chez Singer, cet argument des cas marginaux. Singer nous dit que...
La désignation en elle-même est problématique quand même, hein, parler de cas marginaux, mais pourquoi pas, mais c'est en soi déjà...
J'explique ce qu'est cet argument. Quand Singer inclut les animaux dans notre monde moral, il signale que les animaux doivent y figurer aux côtés de tous les êtres humains qui sont déjà inclus dans notre cercle de considération morale, y compris les êtres humains qui partagent des caractéristiques que nous considérons habituellement dans l'orthodoxie morale comme des déficiences, c'est-à-dire absence de langage, d'autonomie, de conscience d'eux-mêmes. Mais Singer, et c'est essentiel, signale que ce n'est pas un nivellement par le bas, c'est-à-dire il ne dit pas « il faut traiter » les cas marginaux, c'est-à-dire les nouveau-nés, les personnes dans le coma, les personnes lourdement handicapées. Il ne faut pas traiter ces êtres humains-là comme des animaux. Il faut au contraire élever les animaux au niveau de tous les êtres humains, y compris ceux-là.
C'est pas plutôt l'inverse? Il ne s'agit pas d'élever dans la mesure du possible le handicapé mental au rang de gorille et donc par là même l'épargner?
Non, c'est le nivellement par le haut, remonter les animaux dans le monde moral où figurent déjà tous les êtres humains.
Mais pourtant, et on va revenir là-dessus, Singer est favorable à l'infanticide. Il ne voit pas d'objection de principe au fait de mettre à mort un enfant, dans l'hypothèse où il est marginal, donc, hein, jusqu'à l'âge d'un mois, c'est-à-dire qu'il étend l'avortement au-delà de la naissance. On peut se demander d'ailleurs à cet égard pourquoi il s'arrête à un mois, Émilie Dardenne. En vertu de quel critère? Parce que c'est vrai que si l'application du critère est celui de la marginalité, pourquoi s'arrête-t-il à un mois? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tuer un enfant de 2 mois, 3 mois,
parce
un an?
Parce qu'il considère que c'est à ce moment-là que se dessinent les premières caractéristiques importantes qui sont un début d'autonomie, un début de conscience de soi. Donc c'est pour ça qu'il a placé la limite à un mois. À propos de l'argument des cas marginaux, ce qui est important, je pense, c'est que Singer souligne un paradoxe. Il dit, pourquoi est-ce qu'on traite les humains marginaux qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes, qui ne sont pas autonomes, qui ne sont pas capables de se projeter dans l'avenir? Pourquoi est-ce qu'on les inclut dans notre monde moral et pourquoi est-ce qu'on exclut les animaux? C'est de là qu'il part. C'est vrai qu'il justifie l'infanticide, et encore, c'est pas qu'il souhaite que tous les enfants qui naissent avec un lourd handicap soient mis à mort. Ce qu'il souhaite, c'est que les parents de ces enfants aient le choix. En fait, c'est une réaction à des processus médicaux qui veulent parfois, à tout prix, maintenir en vie un enfant qui a toutes les chances d'avoir une vie assez peu satisfaisante. Cependant, Singer ne dit pas « il faut tuer tous les nouveau-nés lourdement handicapés ». Il dit « il faut donner aux parents le choix ». C'est vrai que c'est un argument qui lui a valu de nombreuses critiques. Il a finalement nuancé un petit peu son propos, notamment après certains problèmes qu'il a eus à la fin des années 80, au début des années 90 en Allemagne. Il a été agressé physiquement par des organisations de personnes représentant les handicapés. Et donc, il a proposé à la suite que les parents qui souhaitent se poser la question de la valeur de la vie de leur enfant né lourdement handicapé aient le choix de mettre un terme à cette vie avec l'accord, la consultation des médecins et en consultation également avec les organisations représentant des êtres humains, des personnes en situation de lourd handicap.
J'en profite pour vous rappeler que Philippe Catherine est au studio 105 à partir de 15h30 ce samedi. Venez nombreux. Émilie Dardenne est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce mercredi, c'est de Peter Singer et de la question de la libération animale que nous parlons aujourd'hui. Certains parents veulent mettre un terme à la vie de leur enfant après la naissance. Il y a certains enfants qui prennent le risque de faire chanter leurs parents, ce qui pose également certains problèmes. C'est le cas de Philippe Catherine, donc, dont je rappelle que vous pouvez l'entendre dans la maison de Radio France, Studio 105, samedi prochain à partir de 15h30. On reprend, Émilie Dardenne, cette conversation avec vous, cette discussion à distance sur la libération animale et sur ce que dit Singer. Il y a d'autres questions qui sont en jeu hein, dans la démarche de Singer, notamment, restons dans le rapport entre l'humain et l'animal. Singer a une position, là encore, singulière, pour le moins particulière, difficile, sur la question de la zoophilie. On a parlé d'infanticide, venons-en à la zoophilie, Émilie Dardenne. Du point de vue de Singer, et là encore, ça pose des problèmes, il y a un progrès depuis Bentham. Bentham affirmait ne pas trouver dans l'utilitarisme une raison de rejeter ou de stigmatiser les actes homosexuels. On était au XVIIIe siècle. De ce point de vue, c'était véritablement progressiste de considérer que l'homosexualité ne menaçant ni les individus ni les coutumes telles que le mariage, que Bentham propose une dépénalisation de la sodomie qui alors était condamnée par pendaison. Singer, lui, suit cette argumentation, non plus à propos de l'homosexualité, mais à propos de la bestialité, ce qu'il appelle la bestialité, ou la zoophilie, qui est à ses yeux l'ultime tabou, ce qui pose toute une série de problèmes également, puisque de la même façon que comparer les droits des non-humains et des droits des humains aux droits des noirs et des blancs, ici il établit un parallèle entre l'homosexualité et la zoophilie, Émilie Dardenne.
Non, il n'établit pas un parallèle entre l'homosexualité et la zoophilie. J'ai établi dans un article un parallèle entre le raisonnement de Bentham sur l'homosexualité et le raisonnement de Singer sur la zoophilie, mais ce n'est pas Singer lui-même qui établit le parallèle.
C'est vous.
Voilà. Ce qui me semble important préciser ici, c'est que d'abord, la question de la zoophilie n'est pas du tout un argument central chez Singer. C'est simplement une réaction qu'il a formulée à la parution d'un ouvrage qui s'intitule « Dearest Pet » de Midas Decker, et un ouvrage sur la zoophilie qui avait été attaqué. Et Singer nous dit pourquoi est-ce que... une relation sexuelle entre un être humain et un animal devrait être répréhensible. Alors c'est vrai que c'est une question qui paraît choquante.
Dans l'hypothèse où ce rapport sexuel, dit Singer, est satisfaisant.
Voilà,
si un homme et un chien sont amoureux, pourquoi interdire qu'ils fassent l'amour ?
Alors,
il n'est pas dit d'ailleurs que ce soit vraiment interdit. Enfin, dans le secret d'une alcôve, rien n'empêche de coucher avec son chien sans s'en vanter.
Il ne parle pas il ne dit pas qu'un être humain pourrait tomber amoureux de son chien. D'ailleurs, il ne se prononce pas sur le caractère normal ou sur le caractère naturel d'une telle pratique. Il dit simplement pourquoi est-ce qu'on s'y oppose de façon aussi épidermique. Pour lui, c'est simplement une nouvelle expression de notre volonté de garder notre espèce bien à part et de ne pas vouloir considérer qu'on puisse avoir des rapports différents avec les animaux.
Donc de quoi l'interdit, en fait la question qu'il pose, c'est de quoi l'interdit qui porte sur la zoophilie est d'abord le symptôme. En fait, il se sert de la zoophilie pour diagnostiquer une pathologie qui serait une pathologie morale au fond.
Tout à fait. Il se sert de cette question, encore une fois, pour dire que nous fonctionnons dans un monde moral anthropocentrique.
Un cosaque qui avait froid aux mains était en train de se les réchauffer dans la connasse de sa jument. La bête hennissait doucement. Tout à coup, le cosaque réchauffé se hissa sur une chaise derrière sa bête et, sortant un grand vite long comme un bois de lance, le fit pénétrer avec délice dans la vulve animale qui jutait un hippomane fort aphrodisiaque, car la brute humaine déchargea trois fois avec de grands mouvements de cul avant de déconner. Un officier qui aperçut cet acte de bestialité s'approcha du soldat. Il lui reprocha vivement de s'être livré à sa passion. « Mon ami, lui dit-il, la masturbation est une qualité militaire. » Tout bon soldat doit savoir qu'en temps de guerre, l'onanisme est le seul acte amoureux permis. Branlez-vous, mais ne touchez ni aux femmes, ni aux bêtes. D'ailleurs, la masturbation est fort louable, car elle permet aux hommes et aux femmes de s'habituer à leur séparation prochaine et définitive. Les mœurs, l'esprit, les coutumes et les goûts des deux sexes diffèrent de plus en plus. Il serait grand temps de s'en apercevoir, et il me paraît nécessaire, si l'on veut dominer sur Terre, de tenir compte de cette loi naturelle qui bientôt s'imposera. » Est-ce que Guillaume Apollinaire, Émilie Dardenne, quand il raconte le viol d'une jument lors du siège de Port-Arthur dans les 11 000 verges en 1907, est du point de vue de Singer en avance sur son temps ?
Non, puisqu'il s'agit d'un viol. Et s'il s'agit d'un viol, la pratique est condamnable.
Enfin, la jument ne s'en plaint pas.
Non, mais vous parlez d'un viol. Donc il faut savoir si les deux parties sont consentantes ou non. Mais je ne crois pas qu'il faille accorder
Mais comment établir le consentement d'un animal ?
Je ne sais pas.
Parce que, en l'occurrence, un cheval, pardonnez-moi de rentrer dans ces détails, mais aucun homme ne peut, avec les moyens dont il dispose, fût-il un surhomme, aucun homme ne peut, avec les moyens dont il dispose, porter atteinte à l'intégrité d'un cheval si d'aventure il décide de le violer. Enfin, de l'intégrité physique, en tout cas.
Non, mais je ne crois pas qu'il faille accorder à cette question de la zoophilie plus de place qu'elle n'en a dans l'éthique animale de Singer.
Non, mais il s'en sert pour en faire le symptôme de quelque chose. Servons-nous de ça pour en faire le symptôme de ce qu'il dit.
Il s'en est servi simplement dans un article qui n'est même pas un article, c'est simplement la recension d'un ouvrage. Et je ne crois pas que ça soit quelque chose de fondamental. C'est quelque chose à considérer, bien sûr, mais je ne crois pas que ça soit quelque chose de fondamental. Il y a bien d'autres choses dans la philosophie de Singer et dans son éthique animale qui me semblent importantes. Par exemple, sa définition du terme « personne » qu'il oppose au terme « humain ». C'est quelque chose que nous n'avons pas abordé et qui me semble important de préciser.
On va y venir, Émilie Dardenne. Je voudrais juste, pour sortir de la zoophilie par l'humour, donner à entendre un petit extrait de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander, le film de Woody Allen de 72, dans lequel un docteur tombe littéralement fou d'amour pour une chèvre. Écoutez.
I'm in love with a sheep. It was the greatest lay I ever had.
Mr. Milos, Forgive me if I seemed at all shocked. I'm sorry.
Doctor, Mrs. Goldblatt is on the phone about her rupture.
Later, later. Mr. Milo, of course I'm happy for the two of you, but I do have other patients. And unless there's some specific way that I could help you...
Doctor, please, 1 minute. See, the point is, she no longer loves me.
The little locks are here today, will be gone tomorrow. You have got the luck to set that for a relief your sorrow. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. My music on the step, and the girls behind it, a bonbon.
Raymond Devos, le dindon digne, et Woody Allen, donc, et Émilie Dardenne, qui est avec nous, enfin avec nous depuis Rennes, où elle est en duplex, pour parler de la libération animale de Peter Singer. Qu'est-ce qu'une personne aux yeux de Peter Singer? Et qu'est-ce qui distingue la personne de l'humain? Et qu'est-ce qui distingue la personne du sujet dont on a vu lundi que Bentham, par exemple, en un sens le disloquait sous le calcul général des plaisirs et des peines, alors que Mill, au contraire, d'une certaine manière, le ressuscitait sous une forme plus substantielle. Qu'en est-il de l'idée de personne chez Singer, Émilie Dardenne?
Alors, dans son ouvrage « Questions d'éthique pratique », qui, je pense, est un ouvrage encore plus fondamental que « La libération animale », puisqu'il regroupe toutes les grandes idées de Singer dans le domaine de l'éthique, et pas seulement de l'éthique animale. Donc, si j'ai un ouvrage à recommander pour les auditeurs qui s'intéressent à Singer, ce serait celui-là, « Questions d'éthique pratique ». Il revient sur notre utilisation du terme « humain ». Et pour lui, il y a deux définitions courantes. La première est une définition scientifique. Un humain est un membre de l'espèce Homo sapiens. L'autre est une définition philosophique qui dit qu'un humain était une créature capable d'être consciente d'elle-même, de se projeter dans l'avenir, de s'envisager, dans une relation aux autres. Mmh. Et pour Singer, il y a un problème avec chacune de ces deux définitions. La première définition, c'est une base physiologique, et sur cette base, on peut privilégier un individu de son propre sexe, de sa propre couleur de peau, etc. Donc, il rejette cette première définition scientifique. Et le problème de la deuxième définition, de la seconde définition, qui est une définition philosophique, c'est, encore une fois, on en revient à l'argument des cas marginaux, qui est décidément central chez Singer, c'est qu'il existe des individus conscients d'eux-mêmes, capables de s'envisager dans une relation aux autres, qui ne sont pas des humains, nous dit Singer.
Il pense aux handicapés mentaux.
Non, il pense à certains animaux. Il dit qu'il y a des individus conscients d'eux-mêmes qui ne sont pas humains. Mmh. Donc, certains animaux, certains grands mammifères, notamment les grands singes. Et inversement, il y a également des humains qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes, qui ne sont pas capables de se projeter dans l'avenir. Et donc, Singer propose qu'on appelle les individus de la première catégorie des personnes, c'est-à-dire les êtres humains normaux et certains grands mammifères. Et il parle de la deuxième catégorie comme des individus qui ne sont pas des personnes. Mmh. Donc, un certain nombre d'animaux, mais également un certain nombre d'êtres humains qu'il considère à part.
Qu'il considère à part, et ce qui a des implications. Alors, il y a deux implications à cela. On va en parler, tiens, le projet Grand Singe, oui. Declaration on Great Apes, où il évoque leurs droits au nombre de trois, on va y venir. Et de l'autre côté, ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire la liberté qui doit être offerte aux parents, non pas de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, mais de mettre un terme à la vie d'un enfant déjà né, dans la limite d'un mois. Je reste sceptique sur la nature de cette limite. Je comprends pas pourquoi, dans la logique de Singer, il faut s'arrêter à un mois. Mais bon, laissons cela.
Pour lui, la naissance n'est pas une ligne de démarcation éthique pertinente. Mmh. Voilà, il dit, il arrive qu'en fin de grossesse, on estime qu'un fœtus parce qu'il est trop lourdement handicapé ou parce qu'il a une malformation importante, on va mettre un terme à cette grossesse. Et on estime qu'à partir du moment où il naît, eh bien cette possibilité n'existe plus. Et il s'interroge sur cette frontière. Qu'est-ce que marque symboliquement la naissance ? Pour lui, il n'y a rien de symbolique. Ce n'est pas à ce moment-là que les choses deviennent... Que le statut de l'être humain se forme.
Mais alors, la frontière est-elle même problématique, d'ailleurs, dans le cas de l'IVG même, hein, c'est-à-dire oui. À quel moment est-ce que l'IVG devient un crime ? Effectivement, certains diront que l'IVG est un crime d'emblée, ce qui, là encore, pose un certain nombre de problèmes considéraux éthiques, mais le débat ne porte pas sur l'IVG, mais sur cette limite d'un mois. Si le critère de démarcation pour Singer est une, je ne sais pas moi, une conscience de soi, ou bien l'apparition des premiers intérêts, des premières appétitions, etc. On peut considérer qu'un enfant avant un mois a déjà des désirs, a déjà tout intérêt, par exemple, à ce que le sein de sa mère vienne le nourrir ou vienne apaiser sa faim. On pourrait également lui dire que, je sais pas moi, l'accession à la parole constitue une limite de démarcation qui permettrait d'étendre la possibilité de l'infanticide à 2 ans et demi, 3 ans, par exemple.
Oui, il n'irait pas jusque-là, mais c'est vrai que la limite d'un mois, c'est une limite tout à fait arbitraire qu'il a déterminée comme ça, et je comprends que vous soyez sceptique. Je ne la défends pas plus que vous, c'est simplement ce qu'il propose.
Venons-en au Grand Singe, parce qu'on arrive presque au terme de cette discussion avec vous. Le projet Grand Singe, au nom de quoi évalue-t-il les droits des Grands Singes, le droit à la vie, la liberté individuelle et l'interdiction de la torture ?
Pour Singer, les grands singes sont des êtres qui, par leur capacité, par leur mode de vie, par la richesse de leur vie émotionnelle, nous ressemblent le plus. C'est là-dessus qu'il fonde son argumentaire sur les grands singes. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que ce n'est pas un projet qui est strictement utilitariste. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec... Il y a de très nombreux signataires au projet Grand Singe, y compris des primatologues comme Jane Goodall, des philosophes issus d'autres doctrines éthiques comme Tom Reagan, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, qui est un déontologiste. Singer fonde son argumentation sur le fait que ce sont les animaux qui sont les plus proches de nous. Il appelle avec les autres signataires du projet il appelle de ses voeux la création d'une institution internationale de type ONU qui pourrait protéger les grands singes.
Et en quoi d'abord, comment évalue-t-il cette proximité ? Rapidement, pardon, hein, mais comment est-ce qu'il évalue cette proximité ? Et en quoi le fait d'être proche de nous est-il plus garant de droit ? Pourquoi pas l'inverse, quoi ? De son point de vue. Les animaux non humains et les animaux humains, en quoi le fait d'être proche des animaux humains donne des droits supplémentaires de son point de vue ?
Parce que ce sont des animaux qui sont, comme l'ont démontré les sciences animales ces 30 dernières années, comme le disent des spécialistes de sciences animales comme Dominique Lestel ou Pascal Pic, ce sont des animaux qui ont une culture, donc la culture n'est plus l'apanage de l'être humain, ce sont des animaux qui ont une culture, ce sont des animaux qui ont une vie émotionnelle riche, comme je le disais tout à l'heure. Ce que dit Singer sur le projet Grand Singe, c'est d'abord qu'il reconnaît que c'est un projet ambitieux de vouloir accorder des droits fondamentaux à des animaux. C'est un projet ambitieux et en même temps, ça concerne un nombre très limité d'individus par rapport au nombre de tous les mammifères, par exemple, ou par rapport au nombre de tous les animaux qui sont utilisés dans les élevages ou dans l'expérimentation.
Il y aurait beaucoup de choses à dire, Émilie Dardenne. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Mon regret est qu'on n'ait pas pu parler de la question de la pauvreté, la façon dont Singer se propose de résoudre le problème de la pauvreté et l'introduction des concepts de charité et de don dans une logique utilitariste. Donc, c'eût été très intéressant, peut-être on aura l'occasion d'y revenir et peut-être en votre compagnie, et le végétarisme également de Singer qui est évidemment végétarien et dont l'engagement politique est d'une certaine manière cohérent avec ce qu'il propose dans sa pensée. Merci d'être resté à Rennes, mais en tout cas de l'avoir fait avec nous, d'avoir présenté un peu la pensée de Singer.
Merci.
Je renvoie à notre site internet pour toutes les informations bibliographiques à cet égard.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close.
Il y a des chansons qui tombent mieux que d'autres. Gare au gorille de Brassens, pour finir cette émission, c'est presque une évidence.
Le Saint-Jean sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie, criait éperdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare au gorille.
On écouterait volontiers cette chanson jusqu'à la fin, si ce n'était l'heure du journal des Nouveaux Chemins qu'on retrouve avec joie. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Vous allez nous parler des Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche.
Voilà, on fait un voyage entre les champs de coton et la Maison Blanche puisqu'on parle de l'histoire des Noirs américains. Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour.
Vous êtes historienne et politologue, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la société américaine et les éditions Perrin ont publié le mois dernier en poche votre livre sur les Noirs américains qui était sorti en 2008, juste avant l'élection d'Obama.
Exactement.
Et dans lequel, donc dans ce livre, vous retracez les étapes tumultueuses qui ont permis aux Noirs américains de quitter les champs de coton pour arriver à la Maison Blanche, si je reprends votre titre. Alors vous écrivez dans l'introduction, et je vous propose qu'on parte de là, que faire une histoire des Noirs américains, c'est faire finalement l'histoire de l'Amérique elle-même, mais c'est aussi faire une histoire contre l'Amérique, Nicole Bacharan.
Oui, exactement. Et c'est ce qui m'a complètement fascinée dans cette histoire et qui continue à me fasciner aujourd'hui parce que l'histoire se poursuit. C'est que l'histoire des Noirs en Amérique, elle a commencé en même temps que l'histoire de ce qui allait devenir les États-Unis. Les Noirs ont toujours été là. Ils sont arrivés même un an, les premiers, avant les pèlerins du Mayflower. Il y avait des Noirs en Amérique esclaves dès 1619. Et en fait, que toute leur histoire, elle est intimement, constamment liée à l'histoire de l'Amérique. Et elle se fait, j'ai envie de dire, au nom de l'Amérique rêvée et contre l'Amérique réelle, au nom du mythe américain, parce qu'au fond, à chaque étape de leur histoire, les esclaves, puis les affranchis, puis les gens de couleur, puis les noirs, comme on a fini par le dire, ont exigé de l'Amérique qu'elle soit fidèle à ses idéaux, les fameux idéaux, la vie, la liberté et la recherche du bonheur, alors que l'Amérique réelle était fondée sur la passion de la liberté et sur la détermination absolue de garder ses gens de couleur, comme on le disait, totalement asservis.
Donc faire l'histoire des Noirs américains, c'est prendre l'écart qui sépare une Amérique réelle et une Amérique idéale à laquelle aspirent finalement les Noirs américains, c'est ça ?
Oui, c'est eux finalement qui ont le plus vite et le plus tôt compris le vrai sens du mot liberté. Aux États-Unis, on peut absolument tout gagner, tout vendre au nom de la liberté. Si vous dites, si vous vous emparez du concept de liberté, bon, vous tenez le haut du pavé, si j'ose dire. Mais c'est un mot fourre-tout aussi, c'est un mot magnifique, mais qui veut dire tout et n'importe quoi et qui, à chaque étape, s'adapte. Et quand on suit l'histoire de ce mot, ce qu'il a signifié, ça a été le capitalisme sauvage, comme ça a été le droit de se syndiquer, ça a été le droit de voter, comme le droit de garder les femmes à la maison, ça a tout voulu dire. Et le sens que nous, aujourd'hui, contemporains, on donne à liberté, qui est un sens assez simple et assez intime en même temps, les Noirs américains, qui étaient esclaves, eux, ils l'ont compris tout de suite comme ça. Et à maintes reprises, ils se sont dressés de mille manières. Il y a eu des révoltes d'esclaves, il y a eu le grand mouvement des droits civiques mené par Martin Luther King, il y a eu le grand discours sur la race, finalement, prononcé par Barack Obama en 2008. À chaque étape, les Noirs américains ont dit, en gros, au pays, vous trahissez vos idéaux. Vous n'êtes pas, que l'Amérique soit vraiment l'Amérique. Ils ne demandent pas c'est pas subversif au sens qu'ils veulent un autre système. Ils veulent que le système existe vraiment tel qu'il se proclame.
Alors vous insistez sur le terme de liberté, et c'est vrai que cette histoire, en tout cas telle que vous la retracez, est également une histoire, enfin pas seulement politique, mais également sémantique. Et notamment, vous retracez l'évolution du vocabulaire que l'on emploie pour désigner finalement les Noirs américains, puisqu'on part d'esclaves jusqu'à gens de couleur, nègres, noirs, afro-américains et américains. Enfin, c'est le titre de votre dernier chapitre.
Et finalement, américains. Je pense que quand on regarde Barack Obama, les gens le voient de moins en moins noir et de plus en plus américain. Que ce soit aux États-Unis, ils voient le président, ils sont plus ou moins d'accord avec sa politique économique ou la guerre d'Afghanistan, et que ce soit à l'étranger, où on réalise qu'avant toute chose, c'est un président américain qui a été élu pour défendre les intérêts américains, ce qui me paraît, moi, totalement légitime. Et c'est cette espèce de d'évolution sémantique qui nous donne exactement par moment, c'est vraiment la place qu'on accorde, quoi, parce que c'était le mot qui convenait aux Noirs américains, esclaves, affranchis, etc. Et par moment, c'est vraiment ce qu'ils revendiquent. Par exemple, se faire appeler Negroes, qui en France semble un mot un peu péjoratif, mais à l'époque, aux États-Unis, pas du tout. Ça voulait dire que fier d'être noir, en gros. Arrêtons de raser les murs.
C'est eux-mêmes qui se sont appelés Negroes, puisque les Blancs s'appelaient Caucasians.
Exactement.
Ça, hein,
ouais. On est toujours surpris, je trouve, quand on remplit les papiers aux États-Unis, ils se retrouvaient Caucasians.
C'est un peu exotique,
ouais. Mais nous sommes caucasiens, si on a, vous et moi par exemple, les yeux bleus, et les noirs sont effectivement Negroes. Mais quand Barack Obama a rempli sa feuille de recensement, puisqu'il y a un recensement en 2010, et on a toutes les cases possibles imaginables, hein, dans la case race, et on n'est même pas obligé d'ailleurs de la remplir, mais il a coché noir, puisque maintenant ça s'appelle simplement noir.
Alors comment s'y prend-on lorsqu'on choisit de faire l'histoire d'un groupe, de tout un groupe, donc en l'occurrence les Noirs américains? Comment s'y prend-on pour à la fois déceler, identifier les constantes qui permettent d'identifier un groupe en tant que tel, et en même temps de rester attentif aux singularités individuelles? Puisque là, si je reprends votre titre des champs de coton à la Maison Blanche, Barack Obama est à la Maison Blanche, mais il n'est pas forcément représentatif de tous les autres Noirs américains.
Je pense qu'effectivement, il faut toujours s'efforcer de suivre les deux fils, les figures emblématiques qui quelquefois aussi sont des figures de martyrs, hein. C'est pas toujours des figures heureuse. Enfin, je pense à Martin Luther King, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de morts violentes, célèbres ou anonymes. Et en même temps, il ne faut jamais avoir ce fameux syndrome de l'arbre qui cache la forêt. Bon, par exemple, à l'heure actuelle, ce que je trouve passionnant dans les études qui regardent comment vont les Noirs américains, c'est à la fois que depuis l'élection d'Obama, il y a un très fort optimisme. Ils croient beaucoup plus à leur avenir dans ce pays. Et en même temps, ils sont, comme toujours, deux fois plus touchés par la crise, leur taux de chômage est double, et également le taux de pauvreté de ceux du, disons, l'américain moyen. Et il faut toujours effectivement mettre en rapport à la fois les figures emblématiques et puis ce qui se passe derrière, l'évolution des classes sociales, l'évolution de l'éducation et de l'intégration sous toutes ses formes.
Bah vous réussissez très bien en tout cas à tenir les deux bouts dans ce livre, Nicole Bacharan. Je signale aussi que c'est en lisant votre livre que j'ai appris que le premier président noir n'était pas Obama mais bien Bill Clinton. Oui. Je vous laisse découvrir pourquoi. Donc votre livre s'appelle Des champs de coton à la Maison Blanche, Les Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche. Et on trouve ça aux éditions Perrin.
On va finir l'émission avec un très beau livre, c'est vous qui me l'avez dit, Adèle.
Et oui, on imagine souvent qu'il existe quelque part dans un coin de l'univers ou dans un recoin de l'imagination un endroit où se trouveraient tous les objets qu'on a perdus. Et si c'était également le cas pour les œuvres détruites, les idées oubliées et les valeurs périmées? Ce sont les questions que se pose le dernier livre de Judith Schlanger, Présence des œuvres perdues, que publient les éditions Hermann. Le sujet est fascinant puisqu'il consiste à se demander quel est le statut, quelle forme de présence ont les choses qui sont disparues et comment nous devons les considérer, c'est-à-dire comment regarder ce que l'auteur nomme le paysage de l'absence. Ne faut-il pas accepter qu'en réalité il n'y a pas de paysage et que les choses ont bel et bien disparu? Donc rechercher la présence des œuvres perdues, ce serait donc en fait refuser la perte, tout mettre en œuvre pour préserver, pour garder, pour se souvenir. Et c'est ce besoin-là, ce souci-là qui intéresse Judith Schlanger, qui donc dans ce livre explore la perte, le légendaire et les récupérations ambiguës par le mythe étant une autre façon de rendre présent ce qui n'a jamais existé, mais aussi la fabrication des trésors fondateurs et le travail qui est en fait celui de l'archiviste, qui consiste à préserver, conserver, éliminer et inaugurer. Donc Judith Schlinger réussit le pari d'écrire sur ce thème qui est résolument poétique, mais elle en fait un essai à la fois érudit et captivant, je dois dire. Donc ça s'appelle « Présence des œuvres perdues », c'est par Judith Schlinger et on trouve ça aux éditions Hermann.
Vous en parlez très bien, merci. Merci à tous, merci Adèle. Les Nouveaux Chemins, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve sur Internet où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne des émissions du mois, une bibliographie évidemment avec les livres de Peter Singer, les articles d'Émilie Dardenne, ainsi que le livre d'Elisabeth de Fontenay dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, on en aurait parlé si on avait eu plus de temps, « Le silence des bêtes » paru chez Fayard en 98, un livre absolument remarquable. Le sous-titre était « La philosophie à l'épreuve de l'animalité ». C'est la suite demain de cette semaine sur l'utilitarisme. On parlera des objections kantiennes à l'utilitarisme avec Catherine Audard. À demain donc. Pour l'heure, il est 10h59 sur France Culture et dans un instant, question d'époque.